Mais non, il y a une vie après normale.
À l'issue de l'agrégation, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc je n'étais pas du tout à l'époque dans l'idée de faire autre chose. C'était un moment où je ne savais pas ce que je souhaitais faire. Donc c'est pour ça que la même année que l'agrégation, j'avais passé Sciences Po, pour justement me dire que j'allais me donner une année ou deux pour essayer de réfléchir davantage à ce que je souhaitais faire par la suite. Donc j'ai fait une année de césure qui aurait donc correspondu à ma quatrième année d'école, pour faire ma quatrième année de Sciences Po. En parallèle, j'avais commencé à faire mon DEA, qui était dans la suite de la maîtrise que j'avais faite à Créteil avec Philippe Boutry. Et à l'issue de cette année, j'ai rediscuté avec Philippe Boutry, pour avoir un échange avec lui, qui m'avait à ce moment-là dit « Je pense que vous serez très heureux en faisant de la recherche, vous ferez probablement une belle thèse. » Néanmoins, je pense que dans une dizaine d'années, vous vous ennuierez. Donc je vous recommande plutôt de faire autre chose. Honnêtement, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, je pense, jusqu'ici. Et donc à partir de là, j'ai fait le choix justement de mettre un terme à ce qui aurait pu être ma carrière universitaire. Et puis donc de passer l'ENA. En même temps, je terminais Sciences Po. Ça correspondait, je pense, à un besoin de changement, en fait. J'avais un peu peur dans ma carrière universitaire de devenir le spécialiste d'un sujet pour les 40 prochaines années et de jamais pouvoir en sortir. Le système français ne facilitant pas extraordinairement les passerelles entre carrière universitaire et le reste du monde.
Pourquoi choisir l'histoire pareil? Pourquoi ne pas avoir pris la littérature pour de bonnes raisons ou même la philosophie?
Ouais. Alors d'abord j'ai choisi l'histoire pour ne pas faire comme mon père et en fait probablement pour faire exactement comme lui parce que mon père était professeur de littérature française et un grand spécialiste de Balzac, c'était un des grands spécialistes de la sociocritique. Il était professeur à l'école pendant plusieurs années. Et en fait, mon père se considérait probablement autant comme un littéraire que comme un historien, donc d'une certaine manière, je n'ai pas fait de littérature pour faire encore plus que ce que faisait mon père en pratique. Donc j'ai fait de l'histoire. Après, c'était probablement par personnel, par goût d'une certaine époque aussi. À ce moment-là, moi, j'étais déjà très intéressé par une période en particulier qui était l'après-révolution française. Donc là, c'est toujours de manière un peu bizarre dans la période quasi contemporaine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment toute la période qui était de l'après-révolution française, empire compris, mais surtout post-empire, qui était comment la France arrive à gérer l'héritage révolutionnaire. Moi, c'était ça qui m'intéressait depuis très longtemps, et donc j'avais envie de travailler là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis engagé pour faire de l'histoire. À l'époque, c'était aussi pour travailler là-dessus et pour mener de la recherche dans ce domaine-là.
Vous intégrez donc, après vos études, vos deux années en Master Affaires Publiques à Sciences Po, l'ENA. Quel souvenir à l'école? Qu'est-ce que vous pensez également de l'ENA, puisque c'est une institution qui fascine autant qu'elle répugne à les critiquer? Est-ce que vous pensez qu'il faut la réformer? Est-ce que c'est vraiment cette fabrique d'élite monolithique, monodimensionnelle, comme on a tendance à la réduire?
Premièrement, l'ENA, c'est d'abord pour moi un excellent souvenir parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Déjà pour commencer, ça ne peut être qu'un bon souvenir, même si évidemment cette anecdote témoigne de l'endogamie absolue des élites de ce pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi j'ai plutôt un assez bon souvenir de l'ENA. J'ai surtout un excellent souvenir des stages. Pour moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'à l'ENA, ce qu'on apprend, c'est principalement en stage, beaucoup plus qu'à l'école proprement dite.
J'avais eu de la chance, que j'étais allé à Rouen, ce qui était plutôt amusant, et puis j'étais allé dans les Balkans, à Belgrade en particulier, ce qui était plutôt une expérience rigolote, une expérience étrangère assez rigolote. Oui, à l'ambassade. Je m'occupais des questions liées au Kosovo et au Monténégro, donc à l'époque c'était assez, assez amusant. Moi j'ai plutôt un bon souvenir de l'école, je dirais pas forcément que c'est l'endroit où j'ai appris le plus de choses, plus fondamentalement l'endroit où j'ai appris le plus de choses dans ma vie étudiante, c'est en classe préparatoire. Hein. Clairement, je pense qu'il n'y a jamais eu d'autres moments où j'ai appris autant de choses que ça, et j'ai jamais retrouvé l'équivalent en termes d'apprentissage, de méthode de travail, ou d'émotions intellectuelles d'une certaine manière. Anormal y compris d'ailleurs. Donc à l'heure, j'en ai gardé plutôt un bon souvenir. Après, alors sur votre question, est-ce que c'est monolithique En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas varié comme recrutement, très clairement. Mais ça, c'est d'ailleurs, ça fonctionne, ça vaut aussi bien pour l'école normale. Hein. Je veux dire, quand on regarde le pourcentage d'enfants d'ouvriers à Normale Sup entre les années 70 et maintenant, il a dramatiquement chuté. Vous auriez à peu près le même constat à l'ENA. Après, est-ce qu'il faut réformer l'école ? Fondamentalement, la question, pour moi, elle n'est pas tant de réformer l'école que plutôt la carrière des gens qui en sortent. C'est-à-dire, moi, je fais partie des gens qui sont plutôt hostiles. Et au classement de sortie et au système des grands corps, pour tout un tas de raisons. Le principal d'entre eux étant que j'ai toujours trouvé un tout petit peu étrange qu'on ait une carrière qui soit à peu près dessinée quand on a 24 ans. Quoi. Ça continue à me choquer un peu. Après, est-ce que l'ENA vous enseigne correctement à faire votre boulot de haut fonctionnaire ? La réponse est clairement oui. Je pense qu'on apprend correctement à faire son métier de haut fonctionnaire quand on est à l'ENA. Alors, probablement, on pourrait l'améliorer de plein de manières, mais néanmoins, je pense qu'on apprend effectivement à faire correctement son travail. Moi, la seule chose que je trouve manque à l'ENA, mais c'est particulièrement, enfin, l'une des choses qui manque à l'ENA, mais qui est valable dans toute la sphère publique, et alors là, je le dis d'autant plus que une expérience académique double. On a probablement une des plus belles écoles de sciences sociales du monde dans ce pays, et l'emploi qui en est fait et l'emploi des résultats des travaux qui sont faits dans la conduite des politiques publiques est quasiment proche de zéro. Je pense que c'est une immense erreur. On n'utilise pas assez les résultats, ce que produisent les sciences sociales, ce que produit le HESS. C'est quand même assez symptomatique que Esther Duflo, qui a monté le Poverty Lab, soit, d'une certaine manière, la conseillère. Oui, et puis la conseillère est engagée dans la conduite de politiques publiques aux États-Unis. Ça témoigne totalement de cette espèce de prisme français particulier qui est que sa haute fonction publique n'est pas ouverte sur les sciences sociales et qu'on ne nous apprend pas à en faire usage d'une certaine manière, voire on en a peur, cas le plus topique étant évidemment le ministère de l'Éducation nationale où évidemment il est totalement exclu de s'intéresser à tout ce qui peut être produit par les sciences sociales en matière de sciences pédagogiques en particulier.
Après vos deux années à l'ENA, vous sortez après le concours de sortie à la direction générale du Trésor. Mm-hmm. Donc vous rejoignez la gestion de la dette. Qu'est-ce que vous y faisiez plus précisément, justement, puisque c'est vrai que c'est toujours un peu obscur et technique. Donc est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur à la fois quelles étaient vos missions, quel était votre quotidien, est-ce que ça vous a plu aussi? Donc qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus?
Alors déjà, la direction générale du Trésor, pour être bien clair sur ce que ça fait, donc la direction générale du Trésor, d'abord, ce n'est pas le Trésor public, donc c'est tout sauf les impôts, hein, premièrement. Deuxièmement, la direction générale du Trésor, ses missions, elles sont, de trois natures. D'abord, c'est une direction à caractère économique qui est en charge notamment de tout ce qui est prévision macro et recommandations de politique économique publique. Deuxièmement, c'est une direction qui est en charge de toute la conduite de la politique, on va dire financière, donc financement de l'économie, marché de capitaux et autres. Et troisièmement, c'est la direction qui a en charge la diplomatie économico-financière, en lien évidemment avec le ministère des Affaires étrangères, notamment la préparation du G20, pour prendre un exemple précis. La direction générale du Trésor, ça fait ça. Donc c'est une des directions, ce qu'on appelle les directions d'état-major de Bercy, considéré comme étant une des directions les plus puissantes de l'administration française, ce qui est probablement le cas d'ailleurs. Donc moi j'ai fait le choix d'y aller, j'ai eu la chance de choisir, je suis sorti de l'ENA, j'ai fait le choix d'y aller parce qu'en fait moi j'avais quand même découvert pas mal les questions économiques et financières quand j'étais à Sciences Po, ça m'a vraiment passionné, c'est un moment où j'ai dit de découverte dans ma carrière, dans ma vie étudiante, où je suis rentré dans les questions économiques et financières, ce qui explique qu'après, d'ailleurs, c'est ça que j'ai enseigné, et pas de l'histoire, d'ailleurs, d'une certaine manière, parce que j'ai enseigné l'éco approfondie pendant 4 ans à l'issue. Et donc, à la Direction Générale du Trésor, donc quand vous sortez à la Direction Générale du Trésor, en sortant de l'ENA, vous êtes ce qu'on appelle adjoint au chef de bureau. Donc, adjoint au chef de bureau, ce qui est titre qui fleure bon le Second Empire, et qui, donc en pratique, vous êtes en bas de la chaîne alimentaire, et donc vous êtes en charge de quelques sujets. Moi, j'ai commencé par travailler sur les questions d'économie de l'environnement, et je m'occupais aussi beaucoup de négociations financières internationales dans la perspective de Copenhague à l'époque, donc qui a été le grand échec que l'on sait. Et puis après, je me suis occupé pendant 2 ans des questions de régulation financière, et notamment de régulation de marché. Parce que j'étais dans le bureau qui traitait des marchés financiers, donc je travaillais spécifiquement sur les questions de régulation des marchés post-crise. Donc ça veut dire quoi c'est quoi le quotidien d'un adjoint au chef de bureau à la Direction Générale du Trésor qui sort de l'ENA? Fondamentalement, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des notes, principalement, donc ça produit des notes d'analyse sur des sujets à déterminer, avec pour objectif de recommander des prises de position à son ministre, qui est son autorité de tutelle. Donc ça produit ça. Ça fait beaucoup d'internationaux et beaucoup d'Européens. En pratique, vous passez une bonne partie de votre temps à négocier des choses à Bruxelles ou dans des sphères ou dans des cénacles internationaux divers. Et puis troisièmement, ça fait un peu de prospective, c'est-à-dire c'est une direction dont la vocation est quand même de faire des propositions nouvelles au ministre. Et donc un des objectifs de cette maison, c'est aussi de proposer des choses, des nouveaux axes de politique, de nouveaux axes de politique publique. Donc voilà, ça fait ça, la Direction Générale du Trésor. Et donc quand vous êtes adjoint, vous faites ça, et donc vous êtes en bas et vous produisez de cette manière. C'est une maison, moi, où j'ai appris pour le coup beaucoup de choses. C'est une maison qui est extrêmement rigoureuse. C'est-à-dire, c'est une maison qui vous met... qui a un niveau d'exigence standard pour l'ensemble de ses troupes et qui vous met à ce niveau-là. Donc vous êtes, c'est assez carré hein, comme maison, c'est une maison assez technique et à partir de là, vous pouvez faire autre chose. Mais de ce point de vue-là, moi, ça reste une très belle expérience, c'est une très belle maison. J'ai adoré être au Trésor. C'est une belle école intellectuelle.
Vous rejoignez donc. Après ces 4 années et demie à la Direction Générale du Trésor, vous rejoignez le cabinet de Pierre Moscovici.
Oui.
Comment est-ce que s'est passée cette nomination au cabinet de Pierre Moscovici? Est-ce que vous étiez engagé à gauche déjà pendant la campagne de 2012? Comment est-ce qu'on est appelé, lorsqu'on est comme vous, un jeune fonctionnaire dans un ministère important, à exercer des fonctions beaucoup plus proches du pouvoir politique, c'est-à-dire au cabinet?
Alors, d'abord, je vais répondre à votre question, mais toujours se rappeler quand même, toujours un peu de fantasme. Hein. Cabinet ministériel, c'est très bien, c'est très prestigieux, tout ce que vous voulez. En pratique, le pouvoir qui exerce un conseiller technique ou un conseiller est assez limité. Hein. De facto, dans une grande maison comme Bercy, vous avez d'abord beaucoup de pouvoir qui est concentré, et c'est parfaitement normal, à la tête des directions des ministères, pour un. Deuxièmement, l'autorité de décision, c'est le ministre. Et en pratique, celui qui décide, c'est le ministre et le directeur de cabinet, le conseiller lambda, d'une certaine manière, son pouvoir de décision est quand même très limité. Alors la plupart de mes petits camarades qui ont fait ça m'étrangleraient s'ils m'entendaient, puisqu'ils s'imaginent avoir des rôles probablement très importants. En pratique, moi, l'expérience que j'ai eue en cabinet à Bercy, une très bonne expérience, hein, j'étais très heureux de le faire. Néanmoins, c'est votre capacité de décision est assez limitée. Donc c'est juste pour, on va dire, limiter un peu l'image, le fantasme qu'on se fait derrière le rôle des conseillers ministériels. Je pense qu'il faut... Un tout petit peu dégonfler la bulle. Donc alors, comment vous arrivez là? Enfin, comment moi j'y suis arrivé, parce que je ne parlerai pas pour les autres. D'abord, vous êtes appelé. Hein, ça se fait par un coup de fil. Donc c'est Pierre Moscovici qui m'avait appelé pour me dire qu'il souhaitait que je sois à bord. Et donc ça correspondait en effet à un engagement que j'avais eu pendant la campagne présidentielle. Au moins en marge de mon activité professionnelle normale, donc les week-ends, le soir et la nuit, je contribuais à mon petit niveau à la campagne en produisant, donc là à l'époque, pareil, hein, du papier pour le candidat, donc des notes, qui étaient principalement sur les sujets européens pendant la campagne de mon côté. Et donc je travaillais pour Pierre Moscovici, qui était le directeur de campagne, et qui donc, quand il est arrivé à Bercy, m'a demandé de le rejoindre, avec notamment bon, un job immédiat qui était la création de la Banque publique d'investissement, puisque c'était le premier engagement de campagne du candidat, donc c'était le premier dossier que j'ai eu à traiter quand je suis arrivé.
Et alors concrètement, comment est-ce qu'on crée donc BPI France, qui est une sorte d'organisme qui aide à l'investissement aux PME et ETI dans le tissu économique français? Et j'avais une autre question d'ailleurs à propos de ça. Quelle est la différence avec ce que peut faire la Caisse des dépôts et consignations, qui a quand même pour mission de soutenir l'activité économique? Pourquoi créer un organisme en plus? Quel était l'intérêt?
Alors c'est pas vraiment un organisme en plus, hein, la Banque publique d'investissement, c'est plutôt des organismes en moins, parce qu'en pratique, la Banque publique d'investissement, c'était la fusion d'un certain nombre d'entités qui préexistaient. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'était d'avoir un outil bras armé de l'État financier unique qui faisait à la fois l'investissement, on va dire, en direct dans des entreprises et l'ensemble des instruments de crédit qui soit sous l'autorité de la même entité. C'est ça l'objectif de créer cette banque qui a donc été le produit de la fusion de plusieurs organismes qui préexistaient. Et l'ambition de la chose était notamment de se doter d'une politique de soutien financier intégré de l'ensemble des entreprises en France, et notamment de tout le tissu économique start-up, en gros, ce qu'allait devenir la French Tech. La Caisse des dépôts, elle a un rôle un tout petit peu différent. La Caisse des dépôts, elle a un rôle de soutien économique, mais plus large, qui est notamment de soutien aux collectivités territoriales, à la politique du logement. Il y avait une dimension qui était chez elle, qui était le soutien aux entreprises, qui demeure aussi plutôt les grandes entreprises. Et on lui a arraché d'ailleurs une partie de son activité pour les PME, qui sont ensuite été intégrées dans la Banque publique d'investissement. Donc comment on fait en pratique, c'est du processus à la fois politique et administratif, hein, c'est de la conduite de politique publique de base. Donc la plupart du temps, quand vous avez comme ça une proposition qui émane d'une campagne, vous commencez par l'instruire. Donc très pratiquement, là, pour entrer un peu dans le détail, on avait commencé par faire une mission pour définir des scénarios possibles pour la création de l'objet en question. Donc qui avait été confié à l'inspection des finances, et puis à l'issue, ensuite on a pris un certain nombre de décisions qui ont été prises d'ailleurs par le chef de l'État sur le schéma qu'il souhaitait voir aboutir sur la création de la banque, et à partir de là on a engagé les différents processus nécessaires pour la création. Donc il y avait un processus législatif, puisqu'il fallait faire de la loi pour créer la banque, et puis d'autre part un processus capitalistique, puisqu'il fallait rapprocher des entités. Donc là, ça s'apparente quand même pas mal à une opération de M&A, hein, comme on dit en bon français. Et puis troisièmement, il y avait un jeu évidemment qui était le plus important, qui était un objet d'exécution interne et de réorganisation, et qui là appartenait au management. Et là, la décision la plus importante qui a été prise par le chef de l'État et Pierre Moscovici à l'époque, ça a été la nomination du directeur général Nicolas Dufour.
Vous évoquiez il y a quelques instants avec nous votre engagement pendant la campagne de 2012. D'où vient selon vous cet engagement à gauche? Est-ce que c'est un engagement pris sur le tard après réflexion, découverte, lecture, ou est-ce que c'est quelque chose qui est enraciné dans votre tradition familiale ou dans votre ressenti de jeunesse?
Premièrement, c'est clairement familial. Hein. Au départ, moi, j'ai des parents qui ont toujours été très engagés politiquement. Mon père, très engagé au Parti communiste. Il avait créé à l'époque la société une société qui s'appelait la Société pour les Français, qui était d'une certaine manière une forme de bras armé du PC, malgré tout, dans les ducs. Hein. J'ai une mère 68 tard, trotskiste, donc on va dire avec une tradition un peu vivace dans la famille, qui n'est pas toujours partagée entre les deux. Donc, très clairement, moi, il y a une tradition familiale à gauche assez forte. Après, moi, je ne suis pas un militant. J'ai eu ma carte au Parti Socialiste. Je dois d'ailleurs à ce jour pas être à jour de cotisation, et je l'ai prise relativement tardivement. J'ai jamais été séduit par les appareils de parti. Hein. Je continue d'ailleurs aujourd'hui à ne pas être séduit par les appareils de parti. J'ai un immense respect pour les militants, mais c'est absolument pas la manière dont moi je souhaitais m'engager politiquement. Donc je me suis engagé politiquement pendant la campagne à un niveau modeste, hein. On était beaucoup à faire ça, hein, à écrire des papiers pour le candidat. On n'était pas. Moi, j'étais absolument pas dans l'équipe rapprochée de campagne. Enfin, pareil, il faut toujours un petit peu de modestie en la matière. Donc, moi, je me suis engagé à l'époque parce que je souhaitais l'alternance, très fortement. Deuxièmement, parce qu'il y avait l'opportunité de voir pour la deuxième fois un président socialiste élu à la tête de l'État. ce qui n'est pas forcément une occasion qui repasse si souvent dans l'histoire de la Ve République. Et donc voilà, parce que j'estimais que c'était le moment et qu'il fallait que j'essaie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Mais après, je ne m'étais pas du tout engagé là-dedans en pensant que j'irais en cabinet ou autre derrière. Parce que moi, en mai 2012, je partais dans le privé. Donc j'avais qu'à ce moment-là, j'avais plutôt prévu d'aller dans le privé pendant quelques années et à l'étranger en plus pour faire autre chose. Donc voilà, c'était pas un engagement qui était lié à ça. Si Pierre Moscovici n'était pas allé à Bercy, puisque j'y suis allé parce que c'était lui qui était là et c'est lui qui me l'a demandé, j'y suis aussi allé pour lui, on serait probablement pas en train d'avoir cette conversation.
Ce que je trouve très intéressant avec ce que vous dites, c'est qu'on voit bien, vous évoquiez votre père qui était très engagé, très militant au Parti communiste, vous qui avez fait le choix de soutenir la campagne d'un président socialiste et qui, avec votre parcours, j'ai l'impression, vous avez plutôt, vous positionneriez plutôt sur le centre, la gauche du Parti Socialiste. Donc, on voit travailler dans la finance, conseiller d'un président qui se veut plutôt social-démocrate. Est-ce que vous pensez que votre parcours, si on le met en regard avec celui de votre père, c'est-à-dire celui d'un intellectuel militant, très à gauche, est symptomatique d'une évolution de la vie des idées et particulièrement, plus particulièrement de la gauche aujourd'hui?
Bon, d'abord, mon cher papa a terminé sa vie en étant socialiste, votant François Hollande, a comme tout le monde, ou comme tous les intellectuels de sa génération, une grande partie d'entre eux quittait le parti communiste à la fin des années 70 ou au début des années 80. Deuxièmement, donc, je pense que c'est beaucoup une question de génération. C'est une question de génération. D'abord, j'ai une formation intellectuelle, mais je n'ai pas fait profession d'intellectuel par la suite. Et pour le coup, oui, effectivement, autant j'ai été nettement plus à gauche que je ne l'ai été aujourd'hui quand j'étais plus jeune. Néanmoins, j'ai toujours assumé assez fortement un désaccord assez profond avec on va dire la tradition paternelle ou même maternelle. J'ai jamais été un révolutionnaire. Lié au fait que j'étais un fils de relativement bonne famille, enfant d'enseignant, et qui donc n'avait pas une envie de révolution ou de rébellion particulièrement forte. Donc moi, j'ai, depuis le début de mon engagement, été en effet quelqu'un qui était plutôt, non pas au centre-gauche, oui, non pas au centre-gauche, parce que j'aime bien la phrase de Mitterrand, c'est genre le centre n'est ni de gauche ni de gauche, fondamentalement, mais qui en effet faisait partie, non pas au Parti Socialiste, parce que moi je ne représente absolument pas, je ne suis pas militant et je veux dire, je ne me suis pas engagé au sein du Parti Socialiste en tant que tel. Mais par contre, en effet, je m'inscris totalement dans un courant de pensée qui est fortement social-démocrate et qui considère notamment qu'il n'y a aucune raison de laisser à la droite le monopole de l'efficacité économique et qu'on a le droit de mener une politique de gauche qui est une politique économique efficace, qui est aussi le moyen, par parenthèse, de se donner les moyens de la redistribution, ce qui est normalement ce à quoi tout gouvernement de gauche doit tendre. Ça, pour le coup, c'est une construction personnelle ancienne qui est liée probablement aussi à des lectures particulières ou des... justement, enfin, qui correspond beaucoup à cette période, moi, qui m'intéressait en histoire, hein, qui est vraiment... comment digère-t-on l'acquis révolutionnaire? Que fait-on de l'acquis révolutionnaire? Comment le transforme-t-on en quelque chose qui devient à peu près opérant au 19e et qui respecte les acquis de la Révolution tout en essayant de l'intégrer d'une certaine manière au fonctionnement plus normal de la société.
Vous arrivez en novembre 2013 à l'Élysée. Comment s'est passée cette nomination? Est-ce le président qui vous a appelé, qui vous a dit personnellement de venir? Comment est-ce qu'on est nommé à l'Élysée? Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce qu'il y avait une fierté particulière? Ou vous avez pris ça un travail comme un autre?
Non, on peut évidemment pas prendre ça comme un travail comme un autre. D'abord, moi, je suis fonctionnaire, hein, donc à partir du moment où le chef de l'État vous demande, ou en tout cas, vous fait passer le message qu'il souhaiterait que vous veniez servir l'État au sein de son cabinet, de toute façon, la question ne se pose pas, vous y allez. D'ailleurs, c'est une question, j'allais dire, de loyauté. Le fonctionnaire ne prête pas serment, mais d'une certaine manière, une forme de serment implicite de servir l'État.
vous allez à ce moment-là évidemment servir. Ensuite, tout ça est vraiment totalement affaire de circonstances. Hein. Moi-même, je ne sais même pas exactement comment ça s'est passé d'une certaine manière. Moi, je pense que c'était lié au fait que Pierre Moscovici avait dû avoir des mots gentils à mon égard auprès du président de la République, qui cherchait quelqu'un pour venir intégrer l'équipe d'Emmanuel Macron sur les sujets économiques à partir du moment où Sandrine Duchesne, qui était auparavant à l'Élysée, rejoignait la direction générale du Trésor. Et donc ça s'est fait de cette manière-là. Et oui, c'est un sentiment. Alors pour le coup, c'est un vrai sentiment de fierté. Oui. C'est un vrai sentiment de fierté. Et non, c'est pas un métier normal et ça n'est pas du tout bénin. Quand vous passez la porte de l'Élysée, moi tous les matins je me suis astreint à me dire qu'il y avait quelque chose de totalement anormal dans le fait de venir travailler là. Parce que malgré tout, c'est un endroit où, au service du président de la République, quand le président de la République prend une décision, s'exprime ou écrit, c'est un morceau d'histoire, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la toute petite ou la grande, mais d'une certaine manière, j'ai toujours très frappé de ça. Une des choses qu'on vous dit quand vous arrivez dans votre bureau à l'Élysée, on vous explique quelles sont les règles en matière sur les archives. Et on vous dit effectivement que tout ce que vous allez faire, d'une certaine manière, tout ce que vous allez écrire, tout ça, va aller aux archives nationales. Comme un truc un peu particulier, hein, c'est-à-dire de se dire que... Oui, non, c'est pas surveiller ce qu'on fait, c'est de se dire qu'en effet, tout ce qu'on fait, à tout petit, ne serait-ce qu'à tout petit niveau, à un moment, va être versé aux archives nationales, et que, si ça se trouve, dans 50 ans, vous aurez un historien qui viendra regarder pour comprendre comment ça se passait à ce moment-là. C'est quand même assez particulier, vous n'avez pas beaucoup d'endroits où ça existe, ça, dans la République. Donc c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de responsabilité, c'est un sentiment d'honneur aussi hein, qui vous est fait. Moi j'ai été très, très honoré de ça et j'en suis très reconnaissant au président de la République.
Vous parliez de la nécessité pour un haut fonctionnaire de servir l'État. Est-ce que vous auriez, dans une situation et dans un contexte tout autre, accepté si Nicolas Sarkozy, quelques années avant, vous avait proposé... En gardant votre engagement de gauche, mais avec cette idée de servir l'État, vous auriez refusé ?
Oui, j'aurais refusé. Moi, quand j'étais très jeune fonctionnaire à la Direction Générale du Trésor, un ministre du gouvernement de l'époque, qui était un gouvernement de droite, m'avait proposé de rejoindre son cabinet, j'ai refusé. J'ai refusé, non pas d'ailleurs que je trouvais que ce ministre était particulièrement désagréable, mais parce que je ne... Parce que je ne partageais pas. Le problème, c'est, d'une certaine manière, il faut être à l'aise hein, avec l'ensemble des choses qui sont faites. Quand vous êtes en cabinet ministériel, de mon point de vue, au niveau modeste d'un conseiller, la solidarité gouvernementale joue. Vous ne pouvez pas vous désolidariser de ce qui est fait. Donc vous en assumez d'une certaine manière une part de responsabilité. Donc il faut que vous soyez intellectuellement, politiquement, éthiquement, à l'aise, globalement à l'aise avec ce qui est fait. Donc je ne serais pas allé servir un président de la République de droite, j'aurais répondu poliment. Évidemment, pour expliquer quelle était cette raison-là, voilà, mais je ne l'aurais pas fait.
Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est conseiller économique à l'Élysée comme vous l'étiez? C'est quoi une journée type? Est-ce qu'on fait encore des notes comme vous avez dit?
Oui, on fait des notes.
Toujours des notes?
Oui, on fait des notes. Oui. Non, à l'Élysée, ce que vous faites quand vous êtes dans ces fonctions-là, bon, d'abord, vous avez. Premièrement, enfin, vous avez deux choses de nature assez différente. D'abord, vous avez ce que j'appellerais du métier de cabinet classique. C'est-à-dire, métier cabinet classique, ça consiste à participer à l'organisation de l'agenda de votre responsable politique, participer à l'organisation des événements auxquels il peut prendre part, préparer ses interventions, qui a une forte dimension d'écriture. J'avais été un peu recruté aussi à l'Élysée pour aller écrire sur les questions économiques. Donc vous avez tout un ensemble de choses qui sont le quotidien du métier que vous faites en cabinet ministériel et qui sont en fait liées à la personne que vous servez. Et puis vous avez un deuxième type de travail qui est assez différent, qui est premièrement, vous êtes une force de proposition
pour votre responsable. Donc là, vous pouvez proposer des choses au président de la République sur des politiques à mener ou des actions à mener. D'ailleurs, en lien avec le fait que, en lien avec son agenda, hein, il va se rendre à tel endroit pour telle raison, pour tel événement, et il faut lui faire des propositions qui correspondent à ça. Donc vous avez un rôle de proposition, vous avez un rôle de, d'analyse critique ou de réflexion de propositions qui peuvent lui être faites par d'autres, notamment par les équipes des membres du gouvernement. Donc un ministre veut prendre telle initiative, son cabinet va avoir instruit la chose, bah, il est assez fréquent qu'on vous demande votre avis pour dire ce qu'on en pense, et donc d'une certaine manière on fait une constru-instruction. Donc proposition, analyse, réflexion et constru-instruction de propositions qui peuvent être faites par autre que vous. Et puis de plus en plus vous avez un rôle de suivi de l'exécution des décisions qui ont été prises par le président de la République. Voilà, fin de ma vie à l'Élysée, je passais beaucoup beaucoup de temps à m'assurer que ce qui avait été décidé était effectivement exécuté par les différents ministères, par les différentes administrations. Et ça, ça occupe du temps. Donc voilà, c'est à peu près ça, le travail que vous faites. Alors après, tout dépend du patron que vous servez. Hein. Le président de la République actuel, son travailleur de secret d'alcôve, fonctionnait beaucoup par écrit. Donc, il fonctionne encore, je pense, beaucoup par écrit. Donc là, vous écrivez. Ça passe quand même toujours par l'écriture.
Est-ce que tu as un café? Moi j'ai mis un café, c'est deux cafés, c'est bon. Vous avez une boîte d'allumettes?
Non, désolé.
Pas de briquet, donc. Désolé.
Ouais, pas.
Parlions donc à l'instant, lorsque nous étions au restaurant, de votre activité de conseiller à l'Élysée de François Hollande. Et j'aurais voulu vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une part de travail politique? Est-ce que c'est réservé à un certain nombre de conseillers? Qu'est-ce que ça fait aussi d'être aussi près du pouvoir? Parce qu'on est quand même près du pouvoir sans...
On est au plus près du pouvoir, oui. On est au plus près du pouvoir, mais d'abord, on ne l'exerce pas, parce que celui qui l'exerce, c'est le président de la République, et ce sont évidemment les élus. Hein. Il y a une différence quand même très forte qu'il faut toujours respecter. La seule légitimité que détient un conseiller ou un membre de cabinet, il la détient de la personne pour laquelle il travaille et qui a été élu. Après, oui, évidemment, il y a une dimension. D'abord, vous êtes là pour appliquer un programme politique. Vous êtes là pour l'appliquer, vous êtes là aussi pour le nourrir de propositions que vous pouvez faire. Et donc oui, il y a une dimension évidemment politique dans votre travail, et heureusement, d'une certaine manière. Et puis vous avez aussi un rôle politique, parce que même si ça c'est plus le travail de Matignon que le travail de l'Élysée, quand vous faites des textes législatifs, bah, il y a une dimension forcément politique dans l'économie politique. On fait de l'économie politique, hein, d'une certaine manière, de projets pour voir à un moment, pour effectivement... on le fait en lien avec la majorité, notamment. Donc il y a cette dimension politique-là, évidemment, elle existe. Mais après, l'exercice politique du pouvoir, il n'appartient pas au conseiller du président de la République, par définition. Et heureusement, il ne faut surtout pas se prendre pour des politiques.
Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, cette image aussi qu'on retrouve beaucoup dans une certaine partie des médias, du conseiller qui ferait la politique à la place du président ou qu'il assommerait. Récemment, par exemple, j'ai lu, c'est aussi l'occasion avec vous de déconstruire certaines images, mais du président complètement isolé à l'Élysée, loin d'une situation politique du club, assommé de conseillers techniques et de chiffres. Est-ce que vous pensez que cette image-là est complètement fausse et exagérée?
Non, je pense que par définition, la construction de la Ve République fait que institutionnellement, le président de la République a un rôle éminemment particulier dans le système institutionnel. Bien évidemment, c'est enfoncer une porte grande ouverte que de le dire. Merci madame. C'est enfoncer une porte absolument grande ouverte que de le dire. Donc est-ce que ça aboutit à un isolement ou autre? Ça, c'est pas à moi d'en juger. Moi, je n'ai pas vu les conseillers faire la politique. Le responsable politique, c'est celui qui décide Encore une fois, quand vous êtes à l'Élysée, quand vous êtes conseiller, vous pouvez être amené à prendre des décisions très techniques sur un certain nombre de choses, parce que vous évitez d'embarrasser votre patron avec des détails. Mais en pratique, la responsabilité, le rôle de décision politique ne vous appartient pas du tout. Et heureusement, il ne vous appartient pas. Et donc c'est à vous de juger ce qui relève de la décision du chef de l'État, ce qui relève de la décision de son équipe gouvernementale. Les conseillers ne sont pas au-dessus des ministres, évidemment pas. Ils sont un des éléments du rouage, on est un rouage dans la prise de décision. Mais on ne se substitue pas à la décision, et à la fin, c'est le politique qui décide.
Vous décidez, alors que vous êtes conseiller de François Hollande à l'Élysée, de partir chez Amundi. Pourquoi partir et ne pas avoir attendu, par exemple, la fin du mandat? Est-ce que c'est est-ce que vous avez décidé de partir avec derrière la tête l'idée de la réélection possible de François Hollande? Pour le dire plus simplement, puisque c'est posé de manière horrible, est-ce que vous avez voulu quitter le navire avant que le navire sombre, ou sombre éventuellement, puisqu'on ne connaît toujours pas l'issue de l'élection et on ne le saura pas avant mai? Ou est-ce que c'est juste parce que vous avez une opportunité qui vous intéressait particulièrement et que vous avez voulu partir, parce que ça se fait aussi dans le monde des conseillers?
Non, il y avait une opportunité, clairement. D'autre part, moi, ça faisait quand même 4 ans que je travaillais en cabinet ministériel. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi renouveler. Hein. Il faut qu'il y ait d'autres gens qui viennent avec d'autres idées. C'est un travail qui est très intéressant, mais c'est un travail aussi qui, non pas qui use personnellement, mais qui au bout d'un moment, vous perdez par définition un peu de votre capacité de proposition, votre originalité, votre inventivité, parce que simplement vous êtes la tête dans le guidon depuis un certain temps, donc il faut qu'il y en ait d'autres qui arrivent. D'autre part, moi, j'ai fait le choix de partir, d'une part aussi pour ça, puis j'avais une considération personnelle aussi. Je voulais avoir mon petit garçon est né le jour où je suis quasiment parti de l'Élysée. Donc c'était aussi un moment de changement de ma vie, dans ma vie personnelle. Et puis en plus, je considérais qu'après l'été de cette année, on allait entrer dans une phase qui était de nature beaucoup plus politique, c'est-à-dire les grands projets, moi, sur lesquels j'avais pu être amené à travailler à l'Élysée, pour la plupart d'entre eux, avaient été menés. Après, on peut juger s'ils ont été bien menés ou pas bien menés, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas ils avaient été menés. Et donc on allait s'engager dans une nouvelle phase. Et donc moi je considérais que mon rôle, il était maintenant plutôt d'être dehors d'une certaine manière. Et puis j'avais envie de continuer à avoir une action publique ou parapublique d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'en partant, je voulais aussi avoir une autre... continuer à avoir une activité de cette nature-là. C'est pour ça que j'ai appris la présidence d'un petit think tank qui s'appelle En Temps Réel, et dont l'un des objets est aussi d'essayer de mettre sur la table un certain nombre de sujets de réflexion en matière de politique publique. Donc d'une certaine manière, je vais continuer à essayer de participer un tout petit peu à la vie publique de cette manière-là, ailleurs. Et puis aussi, moi je trouvais qu'à un moment, c'est très sympathique de faire des recommandations de politique économique quand on n'a jamais exercé d'activité dans le privé, mais au bout d'un moment, peut-être pas mal aussi d'aller s'y frotter en vrai d'avoir une vraie expérience de l'entreprise. Donc moi, je trouvais que c'était le moment pour moi de faire ça. Après, aujourd'hui, je suis très heureux dans ce que je fais chez Amundi. Je suis très heureux de pouvoir continuer à avoir une petite activité parapublique à côté. Mais je pense que c'était simplement une question de moment, et c'était aussi un moment dans construction de vie personnelle, très simplement.
Qu'est-ce que vous y faites, peut-être brièvement, chez Amundi aujourd'hui? Quel est votre travail et comment vos expériences précédentes vous accompagnent, vous aident et vous donnent une compétence ou un regard très particulier, plus qu'une compétence, dans ce que vous faites aujourd'hui?
Amundi, c'est une entreprise, c'est un gestionnaire d'actifs. Amundi est une entreprise qui gère à peu près 1 trillion. Donc, quand même, une capacité de gestion qui est assez importante. Donc, c'est le seul grand gestionnaire d'actifs de taille mondiale qui n'est pas américain. Donc on est français, on est européen. Ça, c'est quelque chose qui me séduisait aussi de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, moi, je suis en charge de développer une des activités de l'entreprise, qui sont les activités en lien avec la grande clientèle institutionnelle que sont les fonds souverains, les banques centrales et les organismes supranationaux, donc organismes qui ont une forme de dimension publique. Donc là, d'une certaine manière, ce que j'ai pu faire avant peut m'aider à apporter un éclairage sur la manière dont ces institutions fonctionnent. Et à la fin, l'asset management, c'est quand même une vision de l'économie, c'est-à-dire on est des gérants d'actifs pour le compte de clients, et donc d'une certaine manière, ce qu'on propose à nos clients, c'est une vue de l'économie au niveau macroéconomique, au niveau microéconomique. Donc le fait d'avoir fait de l'économie auparavant me permet, même si j'aurais pas du tout la prétention de dire que je maîtrise la totalité de la palette des métiers de ce qui est fait chez Amundi aujourd'hui, me permet aussi de participer à ça dans mon activité professionnelle.
On a vu, pour terminer, un certain nombre de gens de votre génération décider de se lancer en politique. On peut citer Emmanuel Macron, que vous avez bien connu, ou encore Mathias Fekel, à gauche aujourd'hui, qui est pleinement des fonctions politiques. À droite, de la même génération, on peut avoir Julien Aubert, on peut en citer encore. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Ça ne vous intéressait pas? C'est quelque chose qui ne vous attirait pas?
Si, moi j'ai énormément d'intérêt et de respect pour ça. Je pense que c'est une question extraordinairement personnelle. C'est-à-dire, il faut avoir, je pense, plaisir à la forme d'exposition que ça implique, d'exposition médiatique en particulier. Moi, une de mes expériences à l'Élysée a été un moment d'avoir été un peu mis brutalement, médiatiquement en lumière, sans forcément l'avoir demandé. Et je pense que c'est dans ce genre de moment-là que vous posez la question de savoir si vous aimez ça. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous mettez une part de votre ego là-dedans? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Si vous êtes à l'aise, à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question. Personnellement, moi, je ne suis pas quelque chose qui me satisfait particulièrement ou qui me fait particulièrement plaisir. La chose qui me faisait le plus plaisir à l'Élysée d'un point de vue strictement personnel, c'était quand j'écrivais pour le président de la République et que parfois il pouvait prononcer quelquefois certains des mots que je lui avais proposés. Ça a été, je pense, une des satisfactions personnelles les plus intenses que j'ai eues à l'Élysée. Mais je ne ressens absolument pas de plaisir à l'exposition médiatique qui est associée avec une fonction élective. Et donc si vous n'avez pas plaisir à ça, si vous n'êtes pas à l'aise à faire ça, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Et donc moi c'est pour ça que c'est absolument pas mon choix. Donc je ne suis pas élu, je ne le serai probablement pas. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, et j'ai beaucoup vu ceux qui le font en prendre plein la figure et continuer à en prendre plein la figure. C'est quelque chose, il faut avoir une force d'âme très particulière pour faire ça, que je n'ai probablement pas, et donc il ne faut pas forcer sa nature.
Quels sont vos projets pour la suite chez Amundi? Pour l'instant, quels sont vos projets au sein d'Amundi? Quels sont vos projets de carrière pour le long terme? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous vous laissez porter par le plaisir de l'opportunité?
J'ai pas de plan de carrière particulier. Moi, je suis rentré dans cette entreprise parce que d'abord, je crois à ce qu'elle essaie de faire. Je crois à son développement, et notamment c'est son développement international, moi, qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun plan de carrière particulier. C'est d'essayer d'y faire correctement mon travail. Puis on verra pour la suite. Mais pour le moment, il n'y a pas de plan particulier. L'idée, c'est déjà de développer ce qu'on m'a demandé de développer.
Dernière question coutumière à l'émission, avec le recul, que vous a apporté l'ENS?
Je pense que l'ENS, d'abord, les classes préparatoires aux grandes écoles et à l'ENS m'ont appris infiniment à travailler. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Et après, je pense que la chose que m'aura apprise l'ENS, et alors particulièrement l'année d'agrégation, que moi j'ai adoré, ça peut paraître étrange, mais je fais partie des gens qui ont trouvé que l'année d'agrég était un truc formidable. C'est quand même une école de curiosité. Pour moi, la plus belle chose qui est... Pour moi, je pense que toute personne qui est passée en classe prépa littéraire en particulier a en fait envie d'y retourner, parce que vous entrez dans un... Vous découvrez à ce moment-là un nombre de choses, vous découvrez un monde, voilà, c'est vous entrez à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ça peut paraître totalement utopique, mais vous entrez là, vous avez vraiment l'impression de découvrir d'une certaine manière le monde intellectuel possible. Et à l'école, moi j'avais énormément apprécié ça et l'agrégation, l'année d'agrégation en histoire en particulier, parce que comme vous travaillez sur toutes les périodes, que vous préparez l'épreuve de hors programme, ça aiguise votre curiosité intellectuelle de manière assez phénoménale. Et une des choses que moi je valorise le plus, c'est le fait d'être curieux. Je trouve que c'est ça s'entretient, la curiosité. Il faut y être un peu formé en fait. Et dans un système éducatif français qui a quand même tendance à vous mettre assez rapidement dans des boîtes, je trouve que l'école a gardé, notamment, pas assez d'ailleurs, mais une dimension pluridisciplinaire qui fait la très grande force de ça. Voilà, on vous apprend à être curieux, vous le gardez une bonne partie de votre vie. Puis c'est aussi un lieu où vous faites quand même des amis qui durent. J'ai quelques amitiés très très solides qui me viennent de ces années-là et qui sont extrêmement structurantes dans ma vie et qui continuent à l'être aujourd'hui.